Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 25, séparation et divorce. Nous voici donc arrivés, après cette pause pour la semaine sainte et la semaine de Pâques, nous reprenons notre étude du sacrement du mariage, dernier des sept sacrements que nous avons étudiés pendant toute cette année. Nous avons donc déjà parlé de la place du mariage dans le plan de Dieu. Nous avons montré comment Dieu a institué, le Christ a institué le mariage comme sacrement. Nous avons donné un certain nombre d'indications. Je vous invite à écouter les deux épisodes précédents si vous ne l'avez pas encore fait. Et nous en arrivons maintenant, donc c'est la question 347 de cet abrégé du catéchisme de l'Église catholique par le pape Benoît XVI, qui parle des échecs dans le mariage et qui justifie, qui rend compte de la morale chrétienne du mariage, sujet je pense qui peut en intéresser beaucoup. Alors voilà, si vous écoutez ce podcast, je vous invite à écouter d'abord les deux épisodes précédents qui ont montré la beauté, la grandeur, la spiritualité du mariage avant d'aborder les échecs, même si vous le savez comme moi, aujourd'hui malheureusement beaucoup de mariages se terminent pas forcément très bien. Alors numéro 347, quels sont les péchés qui sont gravement contre le sacrement de mariage? Réponse: ce sont l'adultère, la polygamie parce qu'elle s'oppose à l'égale dignité de l'homme et de la femme, à l'unité et l'exclusivité de l'amour conjugal. Ensuite, le refus de la fécondité qui prive la vie conjugale du don des enfants, et le divorce qui va contre l'indissolubilité. Donc essayons de reprendre chacun de ces éléments. Il me semble que le fond de la question est bien expliqué ici dans le fait qu'un certain nombre de fautes contre le mariage s'opposent à ce qu'on appelle les caractères du mariage, donc l'unité et l'exclusivité de l'amour conjugal. Quand on se marie chrétiennement, eh bien on s'engage à vivre pour toute sa vie avec une personne de façon exclusive. Et donc ce sont ce qu'on appelle les notes du mariage, ces caractères qui en sont constitutifs. D'où, d'ailleurs, ce qui peut arriver parfois, lorsque quelqu'un s'est engagé dans le mariage en s'opposant, en ayant, avant même son engagement, manifesté qu'il ne comptait pas s'engager sur ses notes du mariage, eh bien, évidemment, le mariage est invalide. C'est-à-dire que ça a eu l'apparence d'un mariage, mais finalement, ce n'était pas un mariage. C'est comme quand vous achetez un aspirateur, mais en fait... le vendeur avait compris que vous vouliez une machine à laver. C'est un peu difficile de confondre. Mais s'il pensait que vous ne vouliez pas un aspirateur, mais quelque chose qui crache de l'air, eh bien, il y a eu erreur sur l'engagement et incapacité donc de s'engager véritablement. Il y avait mésentente sur ce qui a été contracté. Et donc vous voyez, si quelqu'un dit bon bah écoutez, moi je me marie, mais bah si ça marche pas, je m'en irai, j'irai avec quelqu'un d'autre. C'est évidemment la personne dans cet état d'esprit ne peut pas contracter un mariage. D'où les possibles déclarations de nullité du mariage. La fécondité, donc c'est-à-dire l'ouverture à la vie, à la possibilité de la vie, est évidemment une note, quelque chose qui s'ensuit du mariage. Et de la même façon, quelqu'un qui s'engagerait dans le mariage en disant en fait je ne veux qu'un seul enfant, ou je veux que deux enfants, je ferai tout ce qu'il faut pour ne pas en avoir d'autres, eh bien ce serait là encore quelque chose, un obstacle à la possibilité de contracter un mariage au sens du mariage chrétien. Alors reprenons. Donc quels sont les péchés qui sont gravement contre le mariage, le sacrement de mariage? Donc l'adultère, puisque évidemment le mariage consiste à s'engager l'un à l'autre, l'un envers l'autre, à un, au don de soi-même, le don de son corps, de sa personne, dans les limites du raisonnable, évidemment, et du bien, dans les mérites de la morale, de la foi et de la raison, mais à se donner sans réserve. Voilà. L'adultère, évidemment, étant une faute grave de, contre ce don, contre la confiance que l'autre fait. La polygamie s'oppose au sacrement de mariage parce que, dit le texte, comme je viens de le dire, elle s'oppose à l'égale dignité de l'homme et de la femme, à l'unité et à l'exclusivité de l'amour conjugal. Et ensuite, le refus de la fécondité qui prive la vie conjugale du don des enfants. Comme je viens de le dire, quelqu'un qui refuserait la fécondité, eh bien, ne pourrait pas s'engager dans le mariage. C'est-à-dire, son mariage serait invalide. Celui qui dit, voilà, je veux me marier, mais en fait, moi, je veux pas d'enfant. Ben, en fait, enfin, je ne veux pas. Je parle pas de ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou ceux qui ont des obstacles ou qui, pour des raisons de santé ou pour des raisons psychologiques, auraient des bons motifs. Mais celui qui dit, qui refuse par principe la fécondité, eh bien, ne peut pas contracter un mariage au sens chrétien. Et ensuite, alors, à moins que ce soit un choix, il peut y avoir des exceptions, je réfléchis, je fais attention à ce que je dis, il peut y avoir l'exception, par exemple, de ceux qui décident de vivre la virginité dans le mariage, mais c'est quand même très très rare, extrêmement rare, et très fortement déconseillé. Surtout aujourd'hui, ce serait très très illusoire et très utopique et très imprudent de s'engager dans ce genre de choses. Et enfin, donc vous voyez, péchés qui sont gravement contre le sacrement de mariage, enfin le divorce, qui va contre l'indissolubilité. Parce que l'indissolubilité, évidemment, est une propriété du mariage. Alors, pourquoi est-ce que le divorce est gravement contre le sacrement de mariage? Parce que c'est une rupture de la promesse qui a été faite. Lorsque deux personnes se marient, de façon valide, véritablement, eh bien, ils s'engagent à la fidélité. Alors, je me souviens d'une discussion, je crois que j'en ai déjà parlé précédemment, mais je me souviens d'une discussion avec quelqu'un qui me disait, moi, j'avais promis à ma femme de l'aimer, et puis maintenant, 15 ans plus tard, en fait, j'aime plus. Donc, je divorce. Mais je pense qu'il y a un grave défaut de formation sur ce qu'est le mariage, parce que on peut pas faire à quelqu'un la promesse de l'aimer toujours. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Et tous ceux qui aiment savent que l'amour passe aussi par des temps d'épreuve et que l'amour, le véritable amour, se fortifie dans l'épreuve et lorsqu'il grandit lorsque le sentiment disparaît. Et que le véritable amour, c'est le don de soi et non pas simplement les papillons dans le ventre. Cet homme qui divorçait, qui me disait, moi j'avais promis d'aimer ma femme. Moi, je lui ai répondu, il m'a pas écouté malheureusement, mais j'ai répondu, tu n'as pas du tout promis à ta femme de l'aimer il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. Tu lui as promis de lui être fidèle et de construire quelque chose avec elle. Et donc, le divorce, c'est une rupture de cette promesse. Et toute personne honnête, y compris des gens qui sont dans cette situation de divorce, admettent que évidemment le divorce, la rupture d'une promesse qu'on a faite, non seulement est toujours un drame pour celui qui divorce, pour celui qui est la victime du divorce, pour le mari et la femme, mais aussi pour leurs enfants évidemment, et aussi pour la société. Dans des familles, et je pense que l'une des graves fragilités de notre société contemporaine, c'est précisément le divorce. Combien d'enfants sont le fruit de divorce? Je me souviens de discussions avec des jeunes un jour après un match de foot à Courtalin où ils me disaient, il n'y avait pas un, s'ils étaient une dizaine, une douzaine, il n'y avait pas un qui avait ses parents qui vivaient ensemble. C'est une fragilité sociale, une fragilité de la société. D'où l'importance dans les sociétés chrétiennes de préserver le mariage, de le défendre, d'empêcher le divorce à tout prix. Et ça crée problème chez les enfants, ça c'est évident. Mais alors évidemment, les enfants de gens divorcés peuvent très bien s'en sortir. Hein. Heureusement, l'humanité et la société et Dieu surtout a d'autres ressources. Hein. D'un autre côté, ça crée aussi un tas de difficultés, de conflits, d'instabilité, de blessures dans les familles. Quand un enfant d'une famille, se marie, décide de se marier, en fait, il engage toute sa famille. Il engage ses parents, ses frères et sœurs, les conjoints de ses frères et sœurs, ses neveux. Il engage tout le monde, puisqu'il dit, voilà, je vous présente telle personne que j'aimerais faire entrer dans le cercle familial. Et en général, il ne laisse pas le choix. Alors peut-être que les parents peuvent s'y opposer, même parfois. Mais en général, surtout aujourd'hui, bah, même si les parents s'y opposent, de toute façon, la personne décide de continuer. Mais c'est un engagement de toute la société. Voilà, si dans une famille chrétienne, bah, il y a l'un des frères et sœurs qui décide de divorcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, telle personne que j'avais fait entrer dans le cercle familial, à qui on a fait confiance. Parce que l'un des frères et sœurs avait demandé à toute sa famille de lui faire confiance, qui a connaissance des faiblesses familiales, des histoires familiales, des défauts, des misères humaines que tout le monde a, du jour au lendemain ne fait plus partie de la famille, et on doit faire rentrer une nouvelle personne dans la famille. Eh ben c'est toujours un drame. C'est toujours un drame parce que ça repose sur des promesses non tenues. Et celui qui tient pas sa promesse, alors à tout péché miséricorde, hein, c'est pas bien sûr que tout le monde peut a droit à la miséricorde de Dieu, hein, on est tous autant pécheurs, mais là il y a un enjeu, si vous voulez, social, un enjeu sociétal, parce que encore une fois le mariage engage bien plus que les deux personnes qui se marient. Alors il est urgent de dire, parce que certains, évidemment, comme ça m'est arrivé de parler de ça sur les réseaux sociaux ou dans les conférences, alors vous avez toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais même telle personne, une femme battue par son mari, heureusement que le divorce... Bon. » Alors, question suivante, quand l'Église admet-elle la séparation physique des époux? L'Église admet la séparation physique des époux lorsque leur cohabitation est devenue, pour des motifs graves, pratiquement impossible, même si elle souhaite leur réconciliation. Donc, évidemment... le cas d'école d'une femme battue par son mari, évidemment, la séparation des époux, dans ce cas-là, est nécessaire. Parfois, il est nécessaire que la femme et les enfants soient écartés de leur mari ou de leur père. Donc, évidemment, ça a toujours existé dans l'Église, cette séparation, ce qu'on appelle la séparation physique, séparation de corps, séparation physique des époux. Mais, en souhaitant la réconciliation. Mais aussi longtemps que vit son conjoint, je continue à lire, aucun des époux n'est libre de contracter une nouvelle union. À moins que leur mariage ne soit nul et déclaré tel par l'autorité ecclésiastique. Donc, parce que c'est la condition de la stabilité de la société. Condition de la stabilité des familles et de l'équilibre des enfants. Donc même si le père et la mère ne vivent pas ensemble, il faut que leur engagement l'un envers l'autre perdure. Et on peut pas, on ne devient pas libre de contracter une nouvelle union, d'aller avoir une nouvelle copine, un nouveau mec, comme on fait aujourd'hui. Ça c'est la destruction de la paternité, de la maternité, de la fidélité, de l'engagement à long terme dans la société. Alors à moins que le mariage ne soit nul et déclaré tel par l'autorité ecclésiastique. Donc que les choses soient claires, l'Église n'accepte jamais le divorce. L'Église ne supprime pas des mariages. L'Église n'annule pas des mariages. En revanche, l'Église peut déclarer que certains mariages étaient nuls au terme d'une enquête faite par l'autorité ecclésiastique. Et donc ça, ceux qui sont dans des situations de divorce, dans des situations délicates, bah, si un mariage n'a pas fonctionné, c'est peut-être parce que dès le départ il était nul, parce que dès le départ l'un ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, ne savaient pas à quoi ils s'engageaient, ou s'engageaient avec des idées derrière la tête, en disant, bah, si, comme je disais tout à l'heure, si ça marche pas, j'irai avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est une attitude, un état d'esprit qui rend nul le mariage. Ou alors parce qu'il manquait de maturité, parce que en raison de l'âge, en raison du manque de capacité de réflexion à l'âge quand on s'est marié jeune en particulier, eh bien il y avait un manque de maturité clair. Alors évidemment il y a eu parfois peut-être des abus dans les déclarations de nullité du mariage, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui les tribunaux ecclésiastiques sont très sérieux, les mariages sont défendus, mais de fait il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui de fait sont des mariages nuls. Quand on voit tous ces gens qui vont se marier uniquement parce que la mariée veut mettre une belle robe et qu'elle veut aller à l'église parce que la grand-mère, ça lui ferait tellement plaisir que tu passes à l'église. Ce genre de mariage n'a pas de valeur. Enfin, dire malheureusement, ce sont souvent des parodies de sacrements. Parce que parce que par derrière, il manque de la formation, il manque une réflexion sur le mariage chrétien, il manque beaucoup de choses. Donc, moi, je pense, hein, une fois le pape François avait dit ça, alors ça avait beaucoup choqué, mais je pense qu'il avait tout à fait raison. Je pense qu'il y a beaucoup des mariages qui sont célébrés aujourd'hui qui sont nuls, parce qu'ils ne correspondent pas aux critères, aux, ce qu'on appelle les notes, et donc les propriétés du mariage chrétien. Donc l'ouverture à la vie, l'unité, l'exclusivité et l'indissolubilité. Donc c'est, alors encore une fois, l'Église n'annule pas des mariages, mais l'Église, après un examen, peut déclarer que tel mariage n'était pas un mariage, c'était nul. Donc les personnes se retrouvent évidemment dans un état de liberté. Alors évidemment, ça a des conséquences pour les enfants qui sont nés de cette union, parce que ça veut dire qu'ils étaient au moins juridiquement pas prévus, illégitimes. Mais bon, l'Église essaie de trouver des solutions pour que les chrétiens ne continuent pas à vivre dans des situations qui sont illégitimes, elles aussi. Alors ensuite, question suivante, justement, quelle est la position de l'Église à l'égard des divorcés remariés? Ça, je pense qu'il faut être très très clair. Je vous dis d'abord la réponse, et puis ensuite je commenterai, comme d'habitude. Fidèle au Seigneur, l'Église ne peut reconnaître comme mariage l'union des divorcés remariés civilement. Je fais une parenthèse déjà, c'est ambigu qu'on dit les divorcés remariés. Non, il n'y a pas de divorcés remariés. Les divorcés remariés civilement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Quelqu'un qui a été marié religieusement, dont le mariage n'a pas été déclaré nul, et qui vit avec quelqu'un d'autre, en fait, c'est une situation d'adultère, tout simplement. Il n'y a pas de remariage civil. Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari pour en épouser un autre, elle est coupable d'adultère. C'est une citation du Christ dans l'évangile de saint Marc, chapitre 10, versets 11 et 12. À leur égard, l'Église fait preuve d'une sollicitude attentive, les invitant à une vie de foi, à la prière, aux œuvres de charité et à l'éducation chrétienne de leurs enfants. Mais aussi longtemps que dure leur situation, qui est objectivement contraire à la loi de Dieu, ils ne peuvent recevoir l'absolution sacramentelle, ni accéder à la communion eucharistique, ni exercer certaines responsabilités dans l'Église. Donc, voilà la fin de cette réponse. Alors, première chose à dire, souvent on dit les divorcés remariés sont excommuniés. Alors non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout excommuniés dans le sens d'une excommunication comme quelqu'un qui aurait profané des espèces eucharistiques, qui aurait trahi le secret de confession, qui aurait sacré des évêques sans mandat pontifical. Ils ne sont pas exclus de la communion chrétienne. Mais ils ne peuvent pas communier. Ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique en raison de leur situation qui est objectivement contraire à la loi de Dieu. Donc c'est tout à fait différent. Je vous dirais de la même façon, quelqu'un qui vit dans une situation objectivement contraire à la loi de Dieu, eh bien ne peut pas accéder, donc c'est-à-dire dans un état de péché public, ne peut pas accéder à la communion eucharistique. C'est vrai pour tous les péchés qui sont revendiqués publiquement. Alors ensuite, évidemment, quelqu'un qui a commis un péché doit aller se confesser et regretter son péché. Donc quelqu'un même qui aurait été accusé, condamné, quelqu'un qui a été condamné par la justice civile, par exemple, accusé, trouvé coupable de vol, de meurtre, bien sûr, tant qu'il ne s'est pas confessé, ne peut pas accéder à la communion eucharistique. Ça, on est bien d'accord, ça c'est la base. Maintenant, il peut toujours demander pardon. Et on espère que le voleur, le meurtrier, celui qui a commis même les choses les plus horribles, eh bien, demande pardon pour ses péchés. Le problème de ceux qui vivent dans un état objectivement contraire à la loi de Dieu, c'est-à-dire qui vivent en couple, alors qu'ils étaient mariés avec quelqu'un d'autre. C'est vrai c'est vrai aussi d'ailleurs de jeunes qui sont pas mariés, mais qui vivent en concubinage et qui vivent publiquement ensemble. Et qui vivent maritalement. Oui, je ne parle pas de gens qui sont en cohabitation, enfin en colocation. Ouais. Mais ceux qui cohabitent maritalement, c'est-à-dire qui couchent ensemble, qui font comme s'ils étaient mariés, bah, évidemment, ils vivent dans un état qui est objectivement contraire à la loi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la communion, ils ne peuvent pas recevoir l'absolution, puisque cette absolution nécessiterait d'avoir la volonté, au moins, la volonté ferme, de quitter cette situation objective. Pour donner un autre exemple, dans lequel quelqu'un ne pourrait pas recevoir l'absolution sacramentelle, c'est quelqu'un qui s'accuse de vol. Quelqu'un qui dit, bah, monsieur l'abbé, voilà, je m'accusais parce que j'ai volé votre voiture. Bon, je serais un peu choqué en entendant ça, mais à tout péché miséricorde, très bien, vous demandez pardon, moi comme prêtre, je vous donne le pardon de Dieu, vous regrettez votre péché, très bien. Sauf que la preuve que vous avez regretté votre péché, c'est que vous me rendez ma voiture. Celui qui me dit, bah non, j'ai demandé pardon, mais je garde votre voiture. Je dis, bah non, c'est malhonnête. Vous n'êtes pas honnête, c'est-à-dire que votre pardon n'est pas sincère. Votre pardon n'est pas sincère. De la même façon, celui qui a commis un meurtre, comment juger si son pardon est sincère? Si sa demande de pardon est sincère? S'il rembourse, s'il rétribue ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait. Alors, comment est-ce qu'on rétribue un meurtre? On ne peut pas. Mais celui qui va, par exemple, ou le cas de, je sais pas, la pédophilie, celui qui s'accuserait de pédophilie, d'avoir commis un délit, eh bien, on doit lui demander pour obtenir l'absolution, on doit lui demander de payer d'une certaine façon le mal qu'il a fait. Donc, on pourrait me dire, oui, nul n'est jamais obligé de se dénoncer. On peut conseiller quelqu'un d'aller se dénoncer, mais on doit lui demander objectivement de faire un acte, une œuvre qui prouve la véracité de son repentir. Donc, quelque chose, évidemment, de difficile, comme l'est, par exemple, un meurtrier qui aurait été accusé, qui aurait été condamné, qui aurait purgé sa peine de prison. Eh bien, une fois qu'il a purgé la peine de prison, s'il demande pardon du mal qu'il a fait, on doit croire à l'honnêteté de la demande de pardon. Bon, mais donc vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut recevoir l'absolution sacramentelle que si on rétribue, dans le cas du vol, si on rend la chose qu'on a volée. Eh bien, dans le cas de gens qui vivent dans une situation irrégulière au niveau de la morale conjugale, eh bien, la condition pour recevoir l'absolution, c'est de quitter au moins d'avoir la volonté de quitter cet état irrégulier. Donc, résumé de la situation, parce que la difficulté, c'est évidemment certaines familles, certaines personnes étaient mariées, ont quitté leur conjoint, se sont mis avec quelqu'un d'autre et ont fondé une famille avec quelqu'un d'autre. Donc il y a des enfants qui ont besoin eux de leur père et de leur mère. Donc, comment on fait dans certaines circonstances, c'est très compliqué. Alors là, l'Église va essayer de trouver des solutions. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas. Alors, soit il faut examiner la validité du mariage, c'est-à-dire du premier mariage. En fait, il y a qu'un seul mariage. Il faut examiner cette validité et peut-être en conclure que le mariage en fait était nul. Soit cesser cette vie illégitime. Alors peut-être en continuant d'élever les enfants ensemble, mais sans vivre comme marié femme puisque ils ne sont pas mariés. Donc vous voyez les gens se mettent dans des situations très complexes. D'abord parce que beaucoup s'engagent dans le mariage sans vraiment savoir de quoi il s'agit, sans la maturité nécessaire, sans la formation nécessaire, et ils se retrouvent, engagés dans quelque chose qui après ne leur convient pas, évidemment. Vous voyez, pour conclure sur toute cette question, finalement, la morale chrétienne n'est pas faite pour embêter les gens. La morale chrétienne est faite pour aider les gens et pour sauvegarder les plus faibles dans la société, donc les enfants et ceux qui sont victimes. Donc la morale chrétienne, et y compris le divorce, est faite pour empêcher justement que des gens soient trompés, soient abandonnés, mais qu'une fois qu'on s'est engagé envers quelqu'un, l'homme ou la femme, une fois qu'on est engagé, qu'on a eu des enfants, en fait le chrétien se doit d'assumer l'engagement qu'il a pris. Voilà, même si on n'aime plus, on fait un effort. Un effort parce que c'est plus important de maintenir même si on n'a plus les papillons dans le ventre, c'est plus important de maintenir la structure, la stabilité de la famille, de la société, du projet. Parce que quand on est chrétien, on pense que la fidélité, l'engagement a plus de valeur que l'épanouissement individuel, ce qu'on prétend être un épanouissement personnel. Voilà, parce que Je ne crois pas que l'épanouissement personnel passe par la variété des partenaires sexuels ou affectifs, et que quand on s'est engagé avec quelqu'un, même si on tombe amoureux de la voisine ou du voisin, eh bien, on apprend que on retient ses sentiments au profit de l'engagement solennel que l'on a pris envers quelqu'un d'autre, envers la société et envers Dieu. Ça, c'est le fondement de la morale chrétienne. Pour terminer, en quelques secondes, pourquoi la famille chrétienne est-elle aussi appelée église domestique? Parce que la famille manifeste et révèle la nature de l'église comme famille de Dieu, qui est d'être communion et famille. Chacun de ses membres, selon son rôle propre, exerce le sacerdoce baptismal, contribuant à faire de la famille une communauté de grâce et de prière, une école de vertus humaines et chrétiennes, le lieu de la première annonce de la foi aux enfants. Voilà, pour conclure sur cette note positive, bien sûr, il y a des situations de souffrance, mais il y a aussi des magnifiques situations, et que la famille est faite pour transmettre la foi, transmettre la beauté de l'image de Dieu, la communion, donc l'amour, l'entente, et dans une famille chrétienne, bien sûr, il y a les épreuves et les difficultés, mais il y a aussi la grâce et la bonté, la vertu qui se transmet de génération en génération. Et donc, la famille comme lieu de transmission de la vie, donc c'est un lieu quasi divin, puisque c'est Dieu l'auteur de la vie. Voilà pour terminer sur une note positive, évidemment. Alors, comme toujours, prions l'Esprit-Saint de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Venez d'Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.